Bonjour chers auditeurs. Pour cette émission du mois de juin, nous avons le plaisir d'accueillir au sein du comité Mamega Latifa Rembadnia de la PECB. La PECB, c'est l'association de promotion de l'espace culturel Busrine. Rania Yayaoui d'Alafou. Et Anne-Marie Tagawa, administratrice de l'Agora et éducatrice spécialisée à la retraite. Vous pouvez nous écouter sur le 88.4 FM et sur le canal 8C du réseau numérique en DAB+. Sans oublier le site de Radio Galère, www.radiogalère.org. Cette émission des échos est conçue et réalisée par Farida Drar, toujours fidèle au poste, bien qu'il ne soit pas fidèle ce mois-ci puisqu'il est en arrêt. Nous passons le bonjour. Nous avons la technique Sidi Diallo de Radio Galère. L'animation est assurée par Saïd Boukounouch et moi-même, Leïla Ega. Notre passeuse de mémoire, Karima Berich, qui a décidé de se mettre en grève aujourd'hui, est quand même avec nous et elle prendra la parole quand bon lui semblera. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui est la guinguette. Vous pouvez nous appeler en composant le 07 49 53 26 38. Et nous passons déjà sur une première pause musicale avec le morceau de Fréhel, La Java Bleue.
La Java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon, c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort, pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ces serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand cœur se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue.
Alors nous sommes en direct du comité Mamega pour les échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère au 88.4 de la bande FM, sur le canal 8C du réseau numérique et comme je le disais précédemment sur le site de Radio Galère. Vous pourrez par la suite retrouver cette émission en streaming sur le site du comité Mamega www.vivreensemble.org. Nous serons sur les ondes de Radio Galère jusqu'à 15h. Nous remercions nos invités d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors, avec nous, Rania Yayaoui, Latifa Rembadnia et Anne-Marie Tagawa. Alors, je le dis assez souvent, ces noms qui ne sont pas inconnus pour nous, acteurs de terrain. Mais nos auditeurs ne vous connaissent pas forcément. Donc, Latifa, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes, ta structure, la PECB, tes missions.
Courage. Alors bonjour, je m'appelle Latifa Remania. Je suis directrice de l'association d'espace culturel Busrine depuis 25 ans, sur le territoire un peu plus. Je suis rentrée au tout début en tant que simple secrétaire et par la suite, j'ai monté les échelons.
Depuis quand existe la PECB ?
Alors, la PECB existe depuis 1987, c'est sa 35e édition. Alors, nos missions sont la guinguette, festival itinérant et gratuit pour les habitants qui ne partent pas en vacances au mois de juillet. La deuxième mission, c'est le printemps de la danse, de la danse urbaine, danse hip-hop, avec des compagnies régionales. Et la troisième mission de la PECB, c'est les ateliers de pratique artistique tout le long de l'année. Nous mettons en place des ateliers de danse hip-hop, des ateliers de chant, de musique, d'instruments. Avec les jeunes, on monte des spectacles, on fait du théâtre. Avec les jeunes aussi, on fait des clips vidéo. Voilà, on est sur tous les
fronts culturels.
Comment on fait pour devenir directrice en ayant démarré comme secrétaire ? C'était intéressant de savoir un peu l'itinéraire.
Elle a dit un peu secrétaire.
Je suis arrivée au tout début, il y a 25 ans de ça, en contrat à aider. C'était CEC. Voilà, je suis rentrée sur 20 heures en tant que secrétaire. Et il y avait déjà une directrice à ma place. Et par la suite, il y a eu des démissions parce que c'est un territoire qui n'est pas facile. Et voilà, au bout de quelques années, ça use. Et voilà, et comme étant donné, moi, j'habitais dans le quartier, j'étais du quartier.
J'étais la plus résistante.
J'étais à peu près la plus résistante. Et j'ai tenu bon aussi au niveau des habitants, parce qu'il ne faut pas le nier que c'est grâce aux habitants qu'on est là. Il y a une force... une force culturelle, une force sociale, et on ne baisse pas les bras.
Et à l'heure actuelle, il y a combien de personnes dans ton équipe là, tu vois ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis la seule salariée, et on embauche des intermittents du spectacle ponctuellement.
Alors j'ai envie de te tirer mon chapeau, parce que quand même, mener autant d'actions sur le territoire...
J'ai plusieurs casquettes, en fin de compte.
Portant plusieurs casquettes en étant seule, ça doit être éprouvant.
Très éprouvant. Mais...
Je vois que dans son coin, il y a Rania qui est là, qui a l'air un petit peu de s'ennuyer. Donc, je vais lui demander de se présenter. Oui, je suis d'humeur taquine. Donc je vais demander à Rania de se présenter.
Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Mais là, aujourd'hui, je suis invitée en tant que présidente de l'association à la FOU. Mais je travaille aussi au centre Salagora, ce qui me permet d'être assez présente sur le territoire. Donc voilà.
Donc parle-nous un petit peu de l'association à la FOU. Bon, à la FOU, alors on vous a reçu l'an dernier dans le cadre du concert du Troisième Œil, le lendemain du concert du Troisième Œil qui n'a finalement pas eu lieu. Donc rappelle-nous un petit peu quelles sont vos missions.
Alors nous, l'association à la FOU, on a pour mission principale de promouvoir les jeunes talents du territoire. D'ailleurs, notre projet, c'est à la découverte de nos talents. Et on est installé sur le territoire depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une association qui existe depuis 2006.
Donc l'association existe depuis 2006, oui.
Elle existe depuis 2006. Elle a été créée par des jeunes artistes qui avaient besoin à un moment donné d'être légitimés dans leurs actions pour pouvoir répéter, pour pouvoir avoir des moyens de mettre en œuvre des actions. Et du coup, ils ont été accompagnés par le Centre Social Agora pour se monter en association. Donc à la base, on était vraiment sur de la promotion des jeunes artistes parce qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de chanteurs, de rappeurs, de danseurs, de beatmakers, de graffeurs, etc. Donc l'association à la FOU, elle se concentre sur toutes les cultures urbaines, mais on est aussi ouvert, hein, on fait aussi de l'afro, toutes les tendances que les jeunes aiment. Et puis, petit à petit, on s'est un peu lancé sur des ateliers d'initiation à la pratique artistique, parce que nos ateliers ne sont pas animés par des professionnels, mais par des amateurs. Et voilà, donc du coup, on a aussi eu l'occasion d'avoir participé à des projets avec l'espace culturel, avec des compagnies plus professionnelles comme Mémoire Vive, avec qui on a monté un spectacle. On a eu l'occasion de travailler avec le MUCEM, avec qui on a créé une exposition autour du hip-hop. Et actuellement, on mène toujours des ateliers de danse. Et depuis peu, on a un local avec un studio d'enregistrement pour les jeunes du territoire. Ainsi que
il se trouve où, ce local ?
Ce local, il se trouve à la Busserine. C'est l'ancien local de la Logirem, donc en pied d'immeuble au bâtiment M. Et voilà, donc on y mène aussi maintenant des ateliers d'écriture, de photos, vidéos, voilà, on essaye de mettre en place ce qu'on peut.
Et vous suivez à peu près combien de talents sur une année ?
Alors sur une année, c'est difficile de chiffrer combien de talents on accompagne, parce qu'il y a des jeunes qu'on suit dans la durée, il y a des jeunes qu'on suit ponctuellement. Donc sur la durée, on va dire qu'on a beaucoup de danseuses, parce qu'on n'a pas beaucoup de garçons, mais on a beaucoup de danseuses, donc ce qui représente plus d'une trentaine de danseurs, qui font des ateliers de danse tous les mercredis après-midi à la PECB. Et puis on a aussi donc, des ateliers écriture, on a à peu près une quinzaine de jeunes maintenant. Et sur l'atelier photo, on a quelques jeunes qui commencent quand même à s'intéresser. Et sur la vidéo, on en a un petit peu plus, peut-être une dizaine. Voilà.
On doit conclure que le vidéaste est meilleur que le photographe.
Non, pas du tout. Je pense que la vidéo, en ce moment, c'est un média qui est plus tendance que la photo, mais la photo, ça reste quand même intemporel.
Je vous remercie pour ces présentations. On va revenir peut-être sur le cœur de l'émission, enfin sur le thème, donc sur la guinguette. Donc, ça fait 35 ans que la guinguette existe. Mais une guinguette, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a passé une petite musique de guinguette, parce qu'à la base, on sait que c'était des fêtes qui étaient menées dans les noyaux villageois. Mais moi, la guinguette, telle que je l'ai connue, bah, c'était une fête, bah, c'était un moment de convivialité, c'était une buvette, c'était tout ça, la guinguette. Donc maintenant, Anne-Marie, qui était à l'initiative, ou du moins qui a participé à l'organisation de la première guinguette.
Groupe fondateur, ouais.
Voilà. On te laisse nous présenter un petit peu tout l'esprit qu'il y a eu à la base de cette guinguette et notamment le combat autour du nom guinguette.
Oui. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'existait dans ces années-là, début des années 80, deux éléments qui ont favorisé l'émergence de la guinguette. Le premier, c'est l'arrivée en 81 des opérations anti-été chaud, qui étaient menées par le gouvernement à l'époque, qui, en gros, disait l'été sur les quartiers, c'est chaud. Et donc, il y avait pas mal de problèmes avec les jeunes dans les banlieues, ce qu'on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit les quartiers populaires, c'est plus noble. Et ça aboutit à la création, suite à un rapport ministériel, d'opérations qui visaient à faire partir les jeunes, en particulier les jeunes, puis après un peu les familles, en Ardèche, dans les Alpes, etc. D'où la chanson d'ailleurs d'Ayam qui était « On a mis le feu aux Alpes », je ne sais pas si vous connaissez ce texte, c'était des centaines de jeunes qui partaient avec leurs éducateurs, leurs animateurs. Trigano avait même mis à disposition à l'époque ses tentes, ses lieux d'accueil, etc., pour faciliter, disait-il en tant qu'entreprise citoyenne, le départ de ces jeunes et de ces familles. Donc on assistait pendant tous les étés à des opérations financées où il y avait des appels à projets qui disaient combien vous faites partir de jeunes, etc., etc. Et en même temps, existait à ce qu'on appelait à l'époque l'AGC, c'est-à-dire l'Association d'animation globale concertée, qui est aujourd'hui, qui a donné naissance après à la Maison des Familles, qui est aujourd'hui un centre social sur le 14e arrondissement. L'AGC coordonnait beaucoup d'actions, donc il y avait ce qu'on appelle le sport pour tous, avec des opérations qui étaient coordonnées sur tout le territoire, sur des actions sportives de proximité. Il y avait tout ce qui était espace vert et jardin, avec une personne qui s'appelait Françoise Arles, qui menait des projets concernant la connaissance de l'environnement sur ce territoire, et une personne qui s'appelle Marie-Jeanne de la Rosière, qui était très branchée sur tout ce qui était culturel, et qui nous proposait régulièrement des commissions de travail où on élaborait des projets ensemble. Et moi, j'ai vraiment en tête cette rencontre où nous sommes plusieurs acteurs de territoire à dire, mais en fait, tout l'été, on propose aux gens de partir, on propose aux jeunes de partir, il y en a qui partent, mais il y en a beaucoup qui restent sur le quartier pendant l'été. Et donc, ça serait peut-être bien de proposer quelque chose qui permette d'animer le quartier et de faire que régulièrement, les gens aient un lieu où ils puissent se retrouver pour regarder un film, écouter de la musique. Tu parlais tout à l'heure de buvette, Lila, mais au départ, c'était vraiment que ça, hein. C'était mettre une buvette, c'était une habitante du quartier, Nadia, qui habitait à Picon, qui avait pris un camion et qui faisait la buvette avec un peu des grillades. Après, ça a été d'autres personnes qui ont un peu formalisé tout ça. Et on mettait de la musique, c'était vraiment ça. Et les gens disaient, et ce groupe de travail a décidé de mettre en place ça. Je me rappelle d'une première année où ça a été vraiment informel, c'est-à-dire qu'on avait décidé d'installer des canisses devant l'espace culturel Busserine, pour être à l'ombre. Donc on était tout un tas de gens, éducateurs, animateurs, il y avait même des assistantes sociales à l'époque, enfin, on voit plus ça aujourd'hui, des acteurs associatifs, la SUR très présente à ce moment-là, puisque la SUR, dont je pense que vous avez dû parler ici, association d'animateurs, pour aller vite, avait proposé pas mal de choses pour animer ces soirées. Et donc on installe ça, des canisses, des tables, des chaises, des parasols, pour pouvoir passer ses soirées. Et ce qui est assez rigolo, c'est le choix du nom, parce que décider que ça s'appelle la guinguette, ça ne s'est pas fait tout seul. Et aujourd'hui, c'est une évidence, mais à l'époque, les gens, trois quarts des gens dans la commission disaient, mais en fait, la guinguette, c'est très parisien. Ici, les guinguettes, ça n'existe pas. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, donc, Marie-Jeanne, je me rappelle, qui avait dit, mais non, mais il y en a une à la Pointe Rouge. C'est très sympa, les gens, ils viennent faire baletti le soir, etc. Mais en fait, ça n'avait pas convaincu grand monde, si ce n'est qu'on ne trouvait pas d'autres mots. Et on s'est dit, il n'y a pas aucune raison que la guinguette soit un label parisien. S'il faut qu'on lance la guinguette ici, on lance la guinguette. C'est devenu la guinguette. Encore une fois, avec une force, une énergie essentiellement bénévole, la première année. Ça s'est institutionnalisé par la suite, avec le soutien fort, effectivement, de M. Rastouin, qui était maire de secteur. Gilbert Secaldi, qui était présent à l'époque dans l'équipe de l'espace culturel, et tous les acteurs qui étaient autour et qui ont décidé d'officialiser finalement cette instance. Ce qui est assez marrant, c'est que très vite, la guinguette s'est devenue un label. C'est-à-dire que je sais que les gens disaient il y a la guinguette, ou on se retrouve à la guinguette. C'était vraiment devenu, d'abord le point fixe, c'était la cour de l'espace culturel du Srine. On le verra après, ça n'a plus été le cas après, mais au départ, c'était du 14 juillet au 15 août. Moi, j'ai la première affiche chez moi, tous les soirs, avec une soirée cinéma, une soirée musique.
Jeune public.
L'arrivée d'artistes s'est faite l'année d'après, parce qu'au départ, il n'y avait pas de financement. Et ensuite, les financements ont permis de prendre des artistes qui ont animé des soirées. Mais vraiment, le gros des soirées, c'était surtout une animation de proximité musicale, théâtrale, on a vu à peu près de tout, et les gens venaient à la guinguette sans savoir ce qu'il y avait. Les gens, ils disaient, on se retrouve à la guinguette ce soir, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait. Et un des moments qui a été important, c'est qu'on avait décidé de faire une communication sur le quartier avec un bigophone et une voiture. Et donc, on faisait le tour de Fontvert jusqu'au Flamand en voiture avec le bigophone, avec notre collègue Marie-Geneviève Martin, je me souviens, et qui alpaguait les gens à leur balcon. Hey, madame Intel, ce soir, il faut être à la guinguette parce qu'il y a tel truc, tel événement, etc. Et les gens venaient. Voilà. Et c'était un lieu intergénérationnel assez fort. Ensuite, dans l'histoire, il y a eu les scènes ouvertes qui ont produit d'autres choses, les spectacles avec des financements beaucoup plus importants. Et puis, on en parlera certainement après. La date, en tant que telle, mais le moment clé qui a été la décision par la mairie de secteur de décider que la guinguette ne devait plus être concentrée à la Busserine, mais devait être
itinérante
sur l'ensemble du 13-14. Et ça a été un moment de bascule, en fait, sur l'événement.
quand on écoute la description, c'est pas le mot guinguette qui me vient à l'esprit, c'est plutôt les arts de rue, dans les villages, quand il y a plein de spectacles, les gens arrivent, partent, etc. Ça ressemble plutôt à ça.
Ça ressemble plutôt à ça, mais à l'époque, on ne parlait pas des arts de rue. Mm-hmm. Vraiment, les événements culturels, dans ces moments-là, il y avait les fêtes de quartier, très présentes ici. Avec, moi, j'ai interviewé avec des jeunes adolescents, les familles, sur qu'est-ce qui leur manquait le plus à l'époque. Elles disaient les fêtes de quartier, où il y avait la scène ouverte, les majorettes. Tous les ados que je vois actuellement, quand je leur dis, vous savez ce que c'est les majorettes, ils ne savent pas. Les majorettes, les Antuyaux guyanais qui faisaient des spectacles de danse. C'était vraiment multiculturel sur le quartier, avec des générations différentes, mais c'était la kermesse. Et on voulait trouver un autre nom que la kermesse, en fait. Voilà.
Merci beaucoup Anne-Marie. Merci Saïd, parce que du coup, tu me permets de lancer mon morceau qui s'appelle justement Art de rue, chanté par la Funky Family.
DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Le thème c'est art de rue. Des diens qui pratiquent et ce qui aiment ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone. Ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tacte sur les fourgons. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit. On désire toujours faire mieux. Vu que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes, on pense et l'esprit dit fait le pense. Tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux, savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. Morveux, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour, mais pas quand y'a beaucoup de trucs en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux. C'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA. Tac sur les trains, les murs crades et là où ça craint, comme sur les palais et commissariats. Salut à ceux qui parlent sur de la musique, ce qui décrit joie, angoisse, haine et amour, sans méthode précise et sans être alléché par la pas du gain, mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire, gloire à l'art de rue, dédié aux gens durs et à tous ceux de ta rue. Le thème c'est art de rue, dédié à ceux qui pratiquent et ceux qui aiment ce putain d'art de rue.
Ambiance scandale, danse de vandale, ça d'où vient la chaleur.
Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. Maintenant les MC veulent tous parler de la même chose, mais ils font pas baigner leurs textes dans la même sauce. On explose, extorque, exporte, explore, sextoque, sextorque, vexport. Et fuck, si t'aimes pas le rap, c'est quoi qui te dérange? Tu veux peut-être nous abattre, c'est ça qui te démange. Des petites phrases et des phases face au drame de la rue. On s'emballe, tu te sens mal si tout crame, c'est de l'abus. Les ordures pensent qu'on est bon qu'à prendre, vendent des drogues dures qui s'approchent, ressentent la morsure. Le truc s'est forgé dans la pénombre, l'attente était longue. Goûte l'élixir, vois une gorgée et tombe. T'as reconnu ce putain d'art de rue? Faut le suivre à la trace ou pas le perdre de vue. Dédié à ceux qui dorment pas, et la Z-O-N-E, D-J-U-L-S-2-O-N, S-O-U-N-E.
J'entends dire que nos zones sont synonymes d'échec. C'est vrai que chez nous c'est plutôt ouvrier qu'architecte. Que nous payons en liquide et rarement par chèque. Gardons la foi dans ces périodes où tout est sec. Même au plus bas dans la merde, on lâchera pas le steak. On l'a déjà dit mec, c'est nous contre eux. Dans tout duel, moi la marre, il en reste jamais deux. Dans nos ruelles, seigneur, ne viens pas qui veut. Votre politique on ignore, dans nos quartiers c'est sauf qui peut. Si ça va pas, on s'en remet à Dieu. Que sa puissance exauce nos voeux. Que la gloire soit dans nos rues et dans cette arc qui tue. Ça encouragerait tous qui ont cru. Ma famille, son qui aime et le crew. Dans ce monde où tout est flou, on essayera de faire notre roue. Dans cette ambiance scandale, danse des chacals, destin vandale, tous poussés par la dalle. Dans ce qu'on entreprend, faut être des morphales. Y'a toujours une faille, gloire à l'art de rue.
Ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur.
Gloire à l'art de rue.
Vandale, ça d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox.
Nous sommes en né. J'aurais pu me passer d'aller à l'école, de fumer de la drogue, de boire de l'alcool. Mais comment me passer de rapper sur ma vie? Cette musique constitue encore un des rares trucs qui m'anime. J'ai pas confiance en l'argent, ça passe d'un compte d'une main, d'une poche à une autre. Et puis même s'entretuer une autre. Je fais pas confiance aux femmes, ça passe d'un homme à un autre. De l'arrière d'une case, d'un lit à un autre. Note que dans nos têtes c'est le vrai désordre. Pour preuve, je rappe des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres. Si c'est Men's World, je m'en rends compte quand je suis au plus mal, bien die fucked up. Je suis pas doué pour le vol ni pour le deal, je rappe pour vivre. C'est toujours mieux d'avoir des flics qui me poursuivent. Je fais pas ça pour les femmes, ni avoir trop de fans, ni pour voir ces rimes, toi c'est profane. Gloire à l'art de rue, si tu vivais ce qu'on voit, je suis prêt à parier que t'exprimerais les mêmes faits que moi. On n'est pas si loin du chaos, nul n'est à l'abri d'être plus bas. Pense au cas où tu seras amené à fumer ce qu'on fume, boire ce qu'on boit, vivre ce qu'on voit ou livrer ce qu'on bat. Gloire c'est la guerre, même si tu peux pas le croire. Y'a aussi de l'amour partout, même dans mon rap, même si tu veux pas le voir. Des diamants rues, l'art qui s'en dégage, tout ce qui exprime la rage, tous nos apaches. Funky family, l'histoire continue jusqu'au bout dans l'art des rues.
Les animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy avec vous sur les ondes de Radio Galère. Donc on va revenir à la FOU et la PECB. Je vous ai un petit peu... Oui, c'est ça. Anonymisé entre guillemets, Rania et Latifa. Donc comment est-ce que ces deux associations travaillent-elles ensemble, déjà dans le cadre de la guinguette et en dehors de la guinguette?
Alors... En dehors de la guinguette, déjà, on travaille tout le long de l'année avec les ateliers de pratique artistique qu'on a en commun. Et on se partage aussi les jeunes du secteur sur nos activités en commun. Et après, sur la guinguette, c'est beaucoup de réunions où on travaille tout le long de l'année sur des propositions de jeunes. Qui sont sélectionnés tout le long de l'année. En fin de compte, il y a une sélection par Alafou. C'est Alafou qui s'occupe de ça, de la sélection. C'est pas la PECB. Et voilà, alors il y a un premier plateau de danse et après un premier plateau d'artistes qui chantent. Et voilà, mais c'est tout le long de l'année avec Alafou. Et c'est Alafou qui les...
C'est ça. Nous, à la FOU, vu qu'on a cette mission d'apporter une programmation urbaine, hein, parce qu'on appelle ça un plateau urbain, on essaye quand même de mettre en valeur, en premier lieu, les artistes du territoire, donc ceux qui participent
tout le long de l'année aux activités
et qui sont prêts,
et les nouveaux talents, qui sont dans leur chambre, qui débutent, qui commencent à chanter et qui viennent nous faire des propositions.
Mais voilà. Pas que, mais il y a aussi des talents qui travaillent en autonomie.
C'est ça.
Et donc, comme ils n'ont pas d'espace
d'expression artistique
pour se représenter, ouais. Du coup, c'est aussi leur donner cet espace pour pouvoir se représenter devant... leurs voisins, leurs collègues, leur famille, voilà, leur quartier.
D'accord. Et donc, la préparation d'une guinguette, je m'adresse plus particulièrement à Latifa, parce que Rania va me dire que c'est toute l'année. ça représente combien de temps sur un territoire donné?
6 mois.
6 mois.
6 mois.
D'accord. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que ça représente énormément de temps, et d'autant plus quand on est seul.
Et beaucoup de réunions.
Beaucoup de réunions. Mais là où je voulais en venir, en fait, c'était ça, c'était quand on est seul. C'est compliqué. Mais du coup, quels sont tes partenaires sur les différents territoires? Donc sur la Busserine, j'imagine ton partenaire privilégié, c'est Alafou.
Alafou, le Centre Social Agora aussi.
Le Centre Social Agora.
Mamika. Voilà, en fin de compte, sur les autres territoires, c'est les centres sociaux, les maisons de quartier. Et les associations.
D'accord.
Voilà.
Après, je voudrais juste revenir quand même sur le territoire. Du coup, la guinguette, c'est vrai qu'à un moment donné, on travaillait qu'à la FOU, à PECB, ECB. Et depuis quelques temps, on s'est rendu compte qu'on ne sollicitait pas forcément les partenaires du territoire. Et donc, du coup, on a essayé de redynamiser ce travail-là territorial depuis 2 ans. Et donc, c'est
on a le collectif des jeunes.
Voilà. Donc, du coup, on travaille. C'est
les c'est associations un des locataires, l'association des arc-en-ciel, Sheba aussi, qui cette année, c'est nouveau là, Sheba cette année est venu nous rencontrer. Mais voilà, il y a plusieurs associations. On n'est pas seul sur ce.
Ça me rassure que vous ne soyez pas seul, parce que c'est un travail colossal malgré tout.
Ouais.
Anne-Marie.
Et plus on est, plus c'est meilleur.
Oui, bien sûr.
Et plus on rit. Je juste dire que ça a été aussi une étape de réflexion hein, quand même avec la PECB, parce qu'on a assisté à une période où du coup ça a mis en péril la guinguette, où la guinguette s'est retrécie à l'espace culturel Bisserine uniquement, c'est-à-dire que tout l'aspect partenarial qu'il y avait au départ, qui permettait d'asseoir l'événement sur les quartiers, bon, bien entendu les premières années ici, où il y avait pratiquement tous les partenaires qui étaient autour, mais même dans d'autres cités où il y avait un partenariat, ça c'est, je me rappelle, Frivalon, le petit séminaire, tout ça. Il y a eu un moment où, pour des raisons qu'on ne sait pas, ça s'est réduit. Et du coup, ce partenariat qui permettait aussi de travailler la communication sur le quartier, de réguler les choses sur le quartier, etc., étant tellement peu que la guinguette a subi des contre-coups d'actes de violence qui a fait que pendant 1 ou 2 étés, il y avait des spectacles qui se déroulaient où il y avait des jets de pierre, des jets d'œufs. Et il y avait ce côté-là. Alors, les gens disaient, oui, c'est parce que le spectacle ne plaît pas, mais il y avait aussi, à mon avis, peu d'assises sur le plan local. Et je crois que vous avez un petit respirant aussi, qu'il fallait réactiver ce.
Oui, et en plus, en fin de compte, avant, on travaillait aussi beaucoup avec la DAP aussi, où les jeunes étaient sélectionnés, travaillaient en tant que médiateurs ou en tant que surveillance. Et ces jeunes, après, partaient une semaine en vacances grâce à ce budget qu'on leur donnait suite à ce soutien. Et avec le temps, c'est devenu, entre guillemets, illégal. On n'avait plus le droit. Il faut maintenant avoir une société de sécurité, un numéro de registre, préfecture. Ça fait, voilà, on a perdu tous ces jeunes qui étaient autour de nous et qui nous soutenaient.
Donc, moi, quand j'entends tout ça, ça veut dire que le coût de la guinguette a augmenté aussi.
Tout à fait, c'est ça.
Ça représente approximativement combien de budget pour une scène ?
Moi, je peux vous dire sur plusieurs, pour toutes les dates, parce que pour une scène, c'est
dans sa globalité.
Voilà, dans les 100 000 euros.
Pour, dites, combien, tu as combien de dates ?
La 6.
6 dates. Ah ouais, donc, voilà, on voit bien le coût que représentent ces modifications, entre guillemets.
Ouais, parce qu'il y a le coût artistique, c'est de la culture, ça a un prix.
Bien sûr.
Il y a le coût technique, surtout maintenant, au niveau de la loi, tout a changé. Voilà, c'est une scène. Avant, on montait nos scènes nous-mêmes par les jeunes de la DAP, qu'on embauchait nous-mêmes. Voilà, ça faisait travailler les jeunes de quartier aussi. Maintenant, c'est illégal.
Ouais, c'était donnant-donnant.
Voilà,
ça
il
faisait
faut
du bien
que ce soit monté
aussi
par une société qui a un numéro, que si la scène venait à s'écrouler,
il
voilà.
Y a des assurances.
Depuis Furiani, ça a été ça.
Voilà, ouais. Voilà, c'est maintenant, c'est obligatoire. Ça fait un coût. Voilà, il y a un énorme coût. Après, il y a un coût technicien, parce qu'il y a des techniciens son, lumière, intermittents du spectacle. Et voilà, mais le plus gros budget, c'est la technique et la sécurité.
D'accord.
Voilà.
Alors du coup, bon, quels sont les financeurs de la guinguette ?
Alors le plus gros financeur, c'est le département. En deuxième...
En droit commun ?
En droit commun. Le deuxième, c'est la ville. En troisième, c'est la politique de la ville, l'État et la métropole.
Oui.
Et en dernier, c'est les logeurs. Voilà.
D'accord. Et Rania on a qui aussi, me regarde de travers parce qu'elle n'aime pas, elle aime pas aussi, quand je parle de chiffres.
On a aussi le FDVA depuis 2 ans,
oui.
Voilà, qui nous soutient aussi, et la DRAC.
Voilà. Oh, la DRAC, c'est bien qu'ils soient là quand on est sur des lignes culturelles, c'est sympa. C'est un bon gage, c'est un gage de qualité aussi.
Ouais.
Bien qu'il y ait des gens qui font de la culture et c'est de la qualité aussi, mais bon, la DRAC n'abonde pas forcément. Bon, dernière question, qui ne sera pas vraiment la dernière, mais sur ce thème-là, c'est depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ensemble sur la guinguette à la FOU et la PECB ? Depuis
la création de la FOU.
Voilà, c'est ça. Donc depuis 16 ans.
Oui, depuis la création, puisque moi je suis en poste depuis 25 ans et voilà, j'ai toujours travaillé
à la FOU.
À la FOU.
Super. Donc bon, tu nous as donné des éléments de réponse, parce que j'allais dire, moi, dans mon souvenir, comme les vieux, hein, la guinguette. Il y avait de gros artistes, entre guillemets. Il y a eu Rachida, il y a eu Zebda, il y a eu Vincent Lagaffe.
Orchestre national de Barbès.
L'Orchestre national de Barbès. Il y a eu tout ça, mais il y a eu aussi, comme le disait Anne-Marie, bah, tous les soirs, il y avait la guinguette. Je me souviens que, bien qu'étant une jeune fille adolescente, ma mère me laissait cheminer jusqu'à Picon, jusqu'à Fontvert, jusqu'au Flamand et tout ça pour assister quasiment tous les soirs à un spectacle. Et cette année, tu me dis, six dates. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, y a eu des baisses de subventions.
Et voilà. Anne-Marie, je crois que tu as d'autres éléments de réponse aussi.
De grosses baisses de subventions. Et comme je vous l'ai dit, les prix voilà, oui. de toutes ces obligations maintenant qui nous sont obligatoires. C'est, voilà, avant, on montait nous-mêmes nos scènes voilà, et on avait notre propre matériel. Et maintenant, voilà, c'est obligatoire de passer chaque fois par un prestataire et avoir la confirmation du prestataire, envoyer l'autorisation pour avoir les autorisations. Voilà.
Ouais,
c'est pour ça, c'est le coût.
C'est ça,
mais aussi d'énormes baisses de subventions.
C'est ça, parce qu'Anne-Marie voilà. disait que la première guinguette, c'était quasiment que des bénévoles, que ça se passait pendant un mois sur
des
tout le territoire.
Des gens détachés par leur association.
Voilà, ou des gens détachés et compagnie. Et moi, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on y retourne à ça, parce que les gens qui partent, les jeunes qui partent, il y en a encore moins qu'avant. Quoi.
Et tu sais, c'est une vraie question concernant toutes ces politiques-là. Moi, ça reste une question... J'en avais sur l'engagement au départ hier soir, mais sur des fois, ça fait hurler des gens quand je dis ça. Il y a plein d'initiatives qui sont nées, notamment dans la dynamique de la politique de la ville au tout début, dans les années 80, qui étaient extrêmement fortes et dynamiques parce qu'elles étaient portées par une forme d'engagement et de militantisme associatif pour répondre à des problématiques sur le quartier. La guinguette, ça en fait partie. Ce qu'on a appelé les bourses vacances autonomes au début, ça en a fait partie aussi. Il y a pas mal de choses qui sont nées comme ça. À partir du moment où ça devient institutionnel, on devrait plutôt être content. C'est-à-dire qu'on se dit, ça y est, les institutions reprennent en fait, cet événement comme étant le leur, et ça va le rendre pérenne. Et en fait,
non.
Chaque fois, ça s'accompagne de contraintes, d'injonctions, mais aussi de contraintes qui font que les événements en question perdent petit à petit de leur contenu, de leur sens, et deviennent, la guinguette, c'est typique, quand la mairie de secteur à l'époque a dit on veut que la guinguette se délocalise. En contrepartie, on vous offre la possibilité d'avoir de véritables scènes, des techniciens. Et nous, à l'époque, on a maintenu l'idée qu'il fallait absolument qu'il y ait le même nombre de soirées, on avait même proposé qu'il y ait des bus qui permettent aux gens de se déplacer d'une cité sur l'autre pour pouvoir bénéficier des spectacles sur le 13-14. Et en disant, sur l'aspect technique, attention, qu'il n'y ait pas du coup des coûts énormes. Voilà. Et ben, de fait, ça s'est accompagné de réductions.
C'est ça, parce que quand on disait tu pourrais avoir des scènes, c'est-à-dire que logiquement, on pense à une mise à disposition gratuite. Et là, ce que nous dit Latifa, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'au contraire, ça a grévé le budget des guinguettes. Quoi. C'est
avant, on avait même les camions qui nous étaient prêtés par la mairie de secteur.
Et là, vous devez louer des camions pour le matériel.
Voilà.
Et
maintenant,
tout ça.
On loue les camions. Les barrières étaient gratuites aussi. Et maintenant, les barrières sont payantes. Et en sachant qu'il faut des barrières de partout.
Oui.
Voilà, tout est payant.
Ouais. Karima, tu voulais dire quelque chose ?
Je ne peux pas m'empêcher, je voulais rester silencieuse, mais c'est difficile. Effectivement, je voudrais compléter le propos qui a été dit sur pourquoi la guinguette a diminué. Moi, je pense que ça s'inscrit plus largement dans le désistement des politiques publiques sur la question culturelle dans nos territoires. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de l'invitation du Centre social Agora mercredi, d'intervenir sur l'histoire de ce territoire et la question culturelle est une question centrale. Et on a vu qu'effectivement, les années 80, avec la politique de la ville, en tout cas, ce qui était la politique de la ville au départ, a beaucoup accompagné les initiatives venant d'habitants et de jeunes sur la question culturelle ou l'expression culturelle. Puis en 2002, il y a eu un couperet qui est tombé en disant la culture, ce n'est pas prioritaire, etc. Et ça ne concerne pas que la guinguette. On a vu le festijeune qui a disparu, le marathon hip-hop, etc. Alors quand même, ce qui semble intéressant dans ce territoire, il y a comme une forme de résistance parce qu'on voit que malgré tout, on lâche rien. Voilà, on y revient à chaque fois, comme quoi c'est vraiment un élément, c'est un continuum dans l'histoire culturelle de ce territoire. Enfin, cette expression, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle raconte ce que dit ce territoire, ce que les habitants disent de ce territoire. Et je trouve qu'effectivement, ce que disait Anne-Marie juste avant, ce qu'on aurait pu peut-être négocier à l'époque, mais ce n'est pas sûr qu'on l'aurait obtenu, c'est qu'effectivement, le fait qu'en partie ça s'institutionnalise, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a des deniers publics, etc. Mais il aurait fallu un genre de binôme acteurs associatifs et institutions, et comment ensemble on fait en sorte que ces manifestations culturelles perdurent. Quand j'apprends qu'aujourd'hui, les barrières, il faut que la PECB les paye, alors que la mairie de secteur a des barrières et qu'elle peut les mettre à disposition à titre gracieux, elle l'a eu fait auparavant, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais moins des acteurs culturels du territoire que des pouvoirs publics qu'il faut interroger sur leur quasi-absence par rapport à la vie d'un territoire comme le nôtre.
Donc, on l'a bien compris, la TIFA, la guinguette s'est délocalisée. Nous ne sommes plus, entre guillemets, les propriétaires de la guinguette sur le Grand Saint-Barthélemy. Et du coup, pour cette édition, là, cette 35e édition, sur quel territoire il y aura des guinguettes et à quel moment, s'il te plaît?
Alors, on va débuter le 7 juillet sur la Montrelette. On est limitrophe avec le 15e. Alors, ce sera un spectacle pyrotechnique. C'est la compagnie Carnavire. C'est le 14 juillet, avant le 14 juillet. C'est vraiment un spectacle familial. Alors, vraiment, il faut vraiment venir avec les enfants.
Dans le quartier de la Morlette.
Voilà, en plein cœur. Nous, on est vraiment dans en plein cœur des cités. On est vraiment en bas des...
Parce que j'essaie de visualiser la Morlette. Au niveau de la place intérieure, c'est ça, là où il y a le stade et compagnie?
C'est ça, où il y a le stade de Kamel Bessa.
D'accord, très bien.
Après, le 8 juillet, on se retrouve au Flamand où on a un concert à la compagnie Zara Électrique. C'est une musique sans code et sans frontières. Alors là, on va pouvoir bien danser. Hein. Et c'est une rencontre avec des amis marseillais, avec Anas Zine. Il a une voix envoûtante avec des influences maghrébines ainsi que de nombreux instruments traditionnels. Et Arthur Prénaud, qui a une voix profonde, introduisant des influences africaines. Ça fait, voilà, on aura de tout. Alors voilà, le concert à la Busserine, au Flamand.
Au Flamand, sur le Grand Saint-Barthélemy.
Le Grand Saint-Barthélemy. Voilà, c'est juste en haut. On n'est pas trop loin.
Près du City Stade, devant...
En fait, en bas du centre social des Flamands.
Ah, c'est devant l'esplanade.
Voilà, devant l'esplanade, la nouvelle esplanade qu'ils ont
fait. Près du centre social des Flamands. Oui.
Voilà. Après, on se retrouve le mercredi 13 juillet à la Cité Saint-Just, où on est avec la compagnie Les Échalas. C'est un spectacle qui s'appelle Roule ma boule. C'est un spectacle théâtre, pyrotechnique. Et c'est très visuel. C'est voilà, pendant plus d'une heure. Voilà, là, et là, on est sur le 13e. Mmh. Et c'est aussi c'est inspiré de Miyazaki, japonais.
Oui, c'est les mangas.
Voilà, alors voilà, c'est au niveau des mangas, l'animation, ceux qui aiment les mangas.
L'animation japonaise.
Ouais. Voilà, venez voir le spectacle. Après, on se retrouve le 19 juillet à la Cité La Marine Bleue. Où là, on aura un spectacle jeune public. C'est la compagnie Nicolas Lafitte et Lionel Romilleux. C'est le spectacle qui s'appelle Simbad.
Simbad le marin ?
C'est Simbad le marin. Et au niveau du spectacle, il y a des musiciens. Et ça fait, les musiciens font le jeu de la mer. C'est vraiment...
Ça doit être magnifique.
C'est envoûtant. Moi, je l'ai vu l'année dernière au Parc Biou, en avant-première. Moi, qui n'ai pas trop jeune, j'étais comme un petit bébé. Vraiment, ouais, c'est à 16h. Voilà, là, c'est à 16h pour... On est avec la maison de quartier de Saint-Gabriel et le centre social et la maison de quartier de la Marine Bleue.
D'accord.
Et la DAP aussi. Et puis après, notre clôture à la Busserine.
Ah, oh, quand même.
Voilà.
Quand même.
Le meilleur pour la fin. Et cette année, c'est exceptionnel. Ça aura lieu un vendredi, qu'habituellement, c'est un jeudi. Parce qu'on calcule même jusqu'à la location des camions. Parce que quand c'est le vendredi, on doit garder le camion jusqu'au lundi. Ça fait...
Ça grève encore le coût de la manifestation.
Voilà. Alors, on le faisait auparavant le jeudi pour pouvoir rendre les camions le vendredi pour pas...
Avoir à payer 2 jours supplémentaires.
Voilà. C'est ça. Voilà où on en est au niveau coût.
On comprend.
Voilà, et là, on sera à la Busserine, sur l'esplanade de la gare cette année à l'Agora.
Ah oui, c'est ça change. Jeu,
ouais, on va changer. D'habitude, on est derrière le B7. Alors là, comme c'est un nouveau lieu, on va voir comment on va le découvrir.
Exactement.
Voilà, et là, ce sera un concert scène hip-hop. Alors, en première partie, on a les enfants de l'Agora qui vont faire... tout le long de l'année avec les enfants de l'ECB, de la PECB.
Les enfants de
Alafou. On rectifie. Donc, les enfants qui participent aux ateliers d'Alafou.
Voilà. Et qui vont... Voilà, et qui fera les premières scènes ouvertes danse. Et après, il y aura de la musique.
Oui.
Et après, deux têtes d'affiche cette année, on aura Elams et Derkacez.
Voilà. Pas mal, pas mal.
Et après, on aura aussi tout le long de la, du mois de juillet des ateliers hip-hop du 11 juillet jusqu'au 29 juillet.
Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans le cadre des Olympiades ou quoi ?
Voilà,
on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus
Olympiades
tard.
Sur ouais. La guinguette aussi.
Ok, super. Et il me semble que cette année, Maméga a décidé d'innover en mettant en place un concours d'échecs. De sensibilisation. Ouais. D'initiation, donc. Initiation aux échecs.
Ouais.
Bon, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus.
Tu voulais parler, Saïd ?
Sur le fait que ce soit décentralisé, c'est-à-dire chaque fois un lieu différent, est-ce que les gens se déplacent d'un lieu à l'autre ? Est-ce que vous voulez le favoriser ou non ? Ou est-ce que vous pensez que chaque lieu fait sa propre programmation sur place ?
Non, alors tout le long de l'année, on fait des réunions avec les partenaires de chaque lieu. Et au niveau des habitants, certains se déplacent, d'autres non. Mmh. Voilà, sur la Busserine, certains se déplacent sur les Flamands. Et j'ai beaucoup de mamans qui viennent à la Morolette aussi. Les mamans de l'Agora, de la Fosse, qui viennent sur la Morolette. Mmh. Ils suivent en fin de compte le petit prospectus qu'on a sur la guinguette et ils suivent les dates. Mmh. Mais c'est beaucoup les mamans. Voilà.
Et en termes de communication, donc là j'ai vu le...
Alors, en communication, on imprime 3000 flyers, entre 3 et 4000 flyers et des affiches. Sur chaque site, il y a des affiches qu'on met à disposition du lieu où on est accueilli. C'est à eux avec, c'est à eux de les afficher dans tous les bâtiments, dans les magasins, pour informer la population que ce soir-là, il y a un spectacle.
Et la presse, est-ce qu'elle relaie ces informations quand vous envoyez des...
Alors, oui, la presse le fait. Certaines années, oui. Des fois, non. On ne sait pas pourquoi. Nous, on envoie un dossier de presse, des photos, des plaquettes. Voilà, des fois, on a des articles. Des fois, on n'a pas.
À la fou a l'air de s'ennuyer. Ou les bras croisés, je ne sais pas. Cette posture fermée. Bon, c'est juste une petite question simple. Hein. Alors, pour la guinguette, est-ce que nous aurons la chance d'écouter des artistes qui ont été révélés par Alafou, qui interviennent dans le cadre des ateliers ?
Oui,
révélés, je n'irai pas jusqu'à dire révélés, mais accompagnés, oui, bien sûr.
Alors.
Donc, on met au maximum les enfants qu'on accompagne sur la scène, ceux qui sont prêts. On ne fait pas monter tout le monde, parce que ceux qui ne sont pas prêts, c'est les mettre en difficulté, et ce n'est pas le but de la guinguette. Le but, c'est vraiment de valoriser leur savoir-faire, le travail qu'ils ont pu accomplir tout au long de l'année. Donc voilà, donc, de toute façon, de eux-mêmes, pour eux, la guinguette, c'est une grosse scène, et il y a certains petits qui ont encore peur...
Qui appréhendent, bien sûr, c'est normal.
Voilà, de s'aventurer à chanter à la guinguette. Donc voilà, donc on essaye de les préparer, de les accompagner. Et ceux qui sont prêts et qu'on estime qu'ils ont un petit show à présenter, ben ceux-là, c'est les heureux élus.
Voilà.
En plus, il y en a qui viennent et qui se font filmer aussi, qui mettent tout sur YouTube aussi. Pour eux, étant donné qu'ils sont sur une scène avec du matos, tout ça, et qu'ils n'ont pas tout ça tout le long de l'année, ça fait là vraiment, et ce jour-là, ils viennent et ils se font filmer pour mettre sur YouTube et pour percer.
Ouais, ce sont bien souvent les premières scènes, les guinguettes.
C'est ça.
Pardon. Quand on dit les petits, c'est quel âge ?
Ben, sur la danse, on a vraiment des petits, ça va de 5 ans à 17, 18, voilà, sur la danse. Et après, on a des jeunes hein, de 18-25 ans. Ça va être plus au niveau du chant qui vont, qui vont s'exprimer. Voilà.
Donc, c'est bien ça, la guinguette.
Exactement.
Pour les petits et les moins petits aussi, j'ai envie de dire. Et donc, la sélection des artistes, la programmation est faite par Alafou. Je ne vais pas t'embêter là-dessus parce que je sais que tu n'as pas encore tous les éléments. Mais... Hier, quand nous avons assisté, justement, pas hier, avant-hier, au débat avec Karima, au moment de l'intervention d'Hélène Mille, qui était donc responsable des Basters. Basters, c'est les parents, entre guillemets, d'Alafou. Parce que Rania parlait des enfants d'Alafou, on ne les connaît pas encore. Oui, effectivement, ils ont été qualifiés d'ancêtres. Il y avait de gros castings, de grosses sélections qui étaient mises en place. Anne-Marie, il me semble que tu y participais. Donc oui, je suis en train de meubler un petit peu, je l'avoue. parce que nous avons des artistes qui ne vont pas tarder à arriver, mais qui ne sont pas encore là.
Oui, ben Karima aussi, à l'époque, hein, de sa casquette de responsable de la SCQB à l'époque, faisait partie des comités de sélection, c'est-à-dire que Hélène, à l'époque, et, ainsi que Ali Martiniki, ils étaient trois ou quatre, là,
à sélectionner.
Ali Mero, etc., à nous dire, bon, voilà, on propose un comité de sélection, pas forcément de gens du milieu de la culture, et pour que les enfants viennent se produire, et à ce moment-là, on sélectionnait les groupes, sachant que, pareil, ce que vous dites tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui leur a été proposé, c'est d'avoir une vraie scène de qualité. Donc, ce soit les scènes ouvertes ou le festival ou le marathon, il s'agissait de dire aux gamins et aux jeunes, si vous voulez être sur ces scènes-là, il faut que vous travaillez cette qualité. Hélène insistait là-dessus, mais elle disait, c'est vrai que c'était l'occasion de travailler sur plein de choses, sur le rapport aux règles, sur la ponctualité, sur la gestion des locaux dans lesquels ils étaient accueillis, etc. Et donc, il y avait effectivement des véritables sélections. C'était des moments très solennels. Moi, j'adorais ça, parce que les petits tremblaient un peu, mais ils mettaient vraiment une force pas possible, une énergie pas possible à se montrer sur leurs meilleurs atouts pour être sélectionnés. Alors, la non-sélection provoquait des choses à réguler pour l'équipe à l'époque, parce que quand les troupes, les petits groupes, les compagnies, qui n'étaient pas encore des compagnies, en fait, n'étaient pas recrutées, c'était toujours un peu difficile de gérer ça, mais bon, ça faisait partie aussi des challenges, c'est pas cette année, c'est l'année d'après, et ce qui était important, c'est comme il y avait une série d'événements, c'était aussi, si vous n'êtes pas sélectionné pour les scènes ouvertes, il va y avoir le FestiJeune, ou inverse, enfin, au niveau des dates, mais il y avait plein d'événements qui faisaient que, si c'était pas pour un moment, ça pouvait être sur l'autre. Alors que là, si c'est pas pour la guinguette, il n'y a plus rien. Plus. Voilà.
Pour revenir sur les petits, entre guillemets, quels sont vos rapports avec les écoles, les collèges dans lesquels qu'ils fréquentent?
On n'a aucun rapport. Être franc, on n'a aucun rapport avec. Pour les petits, on est beaucoup proche des familles parce qu'ils sont accompagnés de leurs parents pour les déposer aux ateliers. Donc, il y a une relation quand même qui se crée avec les familles. Après, pour les ados, on va dire que c'est compliqué de travailler avec leurs parents parce que ils laissent pas trop de place à leurs parents. Des fois, je suis obligée de forcer en disant « Je vais appeler tes parents pour aller à tel endroit parce que s'il n'y a pas l'autorisation, tu ne pourras pas venir. » Mais voilà, on essaye quand même de créer une relation et c'est des jeunes qui, généralement, reviennent pour l'année d'après. Donc, qu'on accompagne quelques années jusqu'à ce qu'ils fassent leur propre chemin.
Oui, quand je parlais d'établissement scolaire, c'est parce que, certes, justement, j'ai un peu l'expérience, comme j'ai été prof, il y avait des élèves qui n'étaient pas de très bons élèves et qui avaient ce talent-là. Et donc, à partir du moment où on se rendait compte qu'ils avaient ce talent, y compris le regard des professeurs de l'équipe, changeait sur eux. Et souvent, ils faisaient des progrès parce que ils voyaient dans les yeux des profs autre chose que de « tu n'es pas un bon élève ».
Ben, nous, on travaille avec Aurélie Moulin du Collège Édouard Manet. Et qui, elle, a un atelier d'écriture et elle, on travaille énormément avec elle et elle nous envoie aussi les enfants qui ont un talent en nous disant, voilà, lui, il est bon là, et on les récupère comme ça. Exemple, nous, l'année dernière, on a eu un petit garçon qui doit avoir entre 6 et 8 ans, pas plus, qui danse, mais on lui a même dit de s'inscrire tout le long de l'année parce qu'il a un talent fou en danse. Et ses parents, ils l'ignoraient complètement parce qu'il était inscrit au foot. Voilà, parce qu'ici, dans le quartier, c'est le foot. Et les parents ont été vraiment surpris. Et c'est avec le centre social des Flamands, où j'ai contacté le centre social de Flamands, où on a mis en place avec les parents pour leur signaler qu'il fallait que l'enfant vienne faire des cours de danse hip-hop parce qu'il avait un talent fou.
Comme quoi, les stéréotypes durent toujours. Puisque, exactement, comme vous le savez, mon cher frère Jean-Pierre, danseur, qui a fait de belles choses en danse pendant des années sur le territoire et compagnie, ben, il faisait du foot lui aussi, donc on n'écoutait pas les enfants. Il va falloir qu'on se mette à écouter nos enfants. Rania, tu voulais intervenir?
Oui, je voulais juste rebondir sur l'image des cultures urbaines qui reste encore un peu pas très valorisante pour certains parents, donc surtout le rap, c'est une musique de voyous. Donc voilà, donc il y a encore un travail à faire là-dessus, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les jeunes, ils ont beaucoup de choses à raconter, qu'ils ont une vision du monde qui est quand même intéressante, Et c'est vrai qu'il faut trouver peut-être une passerelle peut-être entre l'école et les activités périscolaires. Oui,
les activités culturelles.
Voilà, et la culture. Et voilà, après, je pense que c'est notre travail aussi. Donc peut-être qu'on a un travail à faire là-dessus.
Anne-Marie, oui.
Moi, je dirais que ça dépendait aussi de, j'allais dire, du profil ou de la compétence ou des personnes qui travaillaient autour de ces projets. Moi, j'étais dans ces années éducatrice de rue sur le quartier, donc en charge de pas mal d'adolescents qui étaient en grande difficulté, notamment scolaire, familiale. Et le travail avec mon travail avec les collèges, c'est beaucoup étayé par un lien. Soit avec les ateliers écriture événements, je n'étais pas seule puisqu'on a travaillé ça avec l'équipe d'animateurs qui était à l'Agora et à la SCQB au départ. J'en profite pour saluer Mustapha Aftari et qui, avec lesquels on bossait sur une forme de livret de compétences avec les collèges, surtout avec les collèges hein, parce qu'on était sur des publics préadolescents et où on partait de l'idée que s'ils étaient en échec à l'école, ce n'est pas pour autant qu'ils l'étaient dans leurs activités sportives, culturelles ou autres. Et valoriser ce qui se passait dans ce lieu-là, ça permettait aussi d'activer un peu des leviers au niveau de l'échec scolaire. Et il y a beaucoup de profs qui jouaient le jeu à ce moment-là. C'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui parce qu'il y a eu peut-être un repli au niveau des collèges et puis c'est moins dans la fibre peut-être des éducateurs et des animateurs qui travaillent actuellement. Mais à cette époque, on en avait fait vraiment un gros, gros travail de réseau pour valoriser et avec les familles, avec la scolarité, les compétences qu'avaient ces gamins. On a travaillé avec leurs entraîneurs de foot, avec les personnes qui animaient les ateliers à l'époque et qui étaient elles-mêmes imprégnées de cette dimension avec les enfants. Voilà.
Merci Anne-Marie. Bon, on a suffisamment tricoté. Je pense qu'on va faire une pause musicale. Sidi, comme nos artistes ne sont pas encore arrivés, je te propose de passer le dernier morceau de la playlist, Soprano et Gradure, Bengami, en espérant que ça les fasse venir à nous.
Tatoué sur la peau et des hippodromes sous le capot, des mélos de fou sortis du chapeau avec un sourire plus figé que la Mona Lisa. Tout est black comme la visa, même en période de crise. On fait que dépenser des liasses de billets pour faire briller la binta, plus dangereuse que Nikita. Sauce blanche sous les frites, pognon tu connais, on a trop sommé pour changer nos manières.
C'est fuego de Marseille à Rio, Paris, Porto Rico, Africa, Mexico. Marseille c'est la psychiatra. Et v'là les gars du sur la piste. Sous titre. Et j'vis ma vie de, du soleil sous les titres. Bob fissé sur mon visage. Comme Kenji sur la guitare. La guitare. Et vas-y suis-moi. T'inquiète pas que je la quiche ta. T'inquiète pas que je la quiche ta. Et quand j'monte sur scène tout le monde fait pas.
Venga, venga.
Donc, chers auditeurs, nous sommes encore et toujours en direct du comité Maméga avec Karima, Saïd et nos invités Rania, Latifa et Anne-Marie. Donc nous sommes quittés en parlant tout à l'heure d'Alafou. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Alafou Live. Donc c'est une journée qui clôture entre guillemets toute l'année précédente. Donc Rania.
Exactement. Ben, Alafou Live, ça consiste. C'est la restitution des ateliers qui ont eu lieu tout au long de l'année. Et on invite aussi d'autres groupes avec qui on travaille ponctuellement, on va dire, sur des actions. Donc ça a lieu à l'espace culturel Busserine. Étant donné que c'est une salle qui a une capacité d'accueil de 160 personnes, donc c'est plutôt sur invitation et on invite prioritairement les familles, ce qui laisse pas trop d'ouverture au reste du public. Donc des fois, on essaye de pas trop respecter les règles et on fait rentrer le maximum jusqu'à ce qu'on se fait gronder par l'équipe de l'ECB. Donc voilà.
Super. Donc ça aura lieu ce soir à partir de quelle heure, même si c'est sur invitation ou que l'information circule?
C'est sur invitation, mais je fais rentrer tant que je peux faire rentrer. Voilà. Donc ça a lieu de... Ben, on commence le show à 19h. Voilà. Donc c'est de 19h à 21h30, parce qu'on doit rendre les locaux pour 22h.
D'accord. Karima avait la main levée.
Non, parce qu'effectivement, tu viens de dire qu'il y a une difficulté au regard de la capacité d'accueil aujourd'hui de l'ECB de pouvoir accueillir un plus grand nombre pour voir la restitution du travail qui a été fait par l'association auprès de jeunes garçons et de jeunes filles. Je voulais juste rappeler que dans le cadre du projet de rénovation urbaine tel qu'il nous a été présenté avant que les grues arrivent dans ce territoire, on devait démolir l'actuel ECB, le reconstruire plus bas et doubler sa capacité d'accueil. Pourquoi doubler sa capacité d'accueil? Parce qu'effectivement, si pendant longtemps le ECB était auto-centré ou centré autour du Grand Saint-Barthélemy, après une volonté politique, elle a élargi sur le 13-14, et ça a créé de grandes tensions et des difficultés pour que les artistes puissent avoir des créneaux et pouvoir non seulement s'initier, mais aussi présenter leur spectacle. Donc l'idée, c'était de dire que la culture... Ça touche, c'est resté du verbiage. C'est que la culture est importante. Donc, on va construire un nouvel équipement beaucoup plus grand, doublement de la capacité d'accueil. Ce lieu n'a pas été construit. Nous restons avec ce qui nous est donné, c'est-à-dire effectivement un lieu, mais qui émarge sur le 13e et 14e arrondissement.
C'est ça, parce qu'en plus, les travaux ont déjà eu lieu sur l'espace culturel. Il me semble que ça a été fermé pendant deux ans.
C'était pour remettre les normes européennes au niveau handicapé.
C'est uniquement. Deux ans pour remettre... Bon, aucun commentaire. Rania, pour Alafou Live, combien de talents y aura-t-il sur scène aujourd'hui?
Alors ce soir, il est prévu 19 groupes. Donc il y a de la danse. Mais la danse, vu que c'est un très très grand groupe, ils sont découpés en plusieurs shows, donc plusieurs passages. Et il y aura du chant et du rap.
Alors, et les groupes sont découpés en plusieurs parties, mais est-ce que chaque partie du groupe aura le même spectacle, entre guillemets? Est-ce
qu'on verra? Pas du tout, c'est plusieurs passages, voilà. Donc c'est plusieurs shows différents.
Excuse-moi, hein, je n'y connais rien.
C'est toujours Abdou qui est référent, et on a une jeune qui s'appelle Yuya, qui intervient, qui accompagne les ateliers de danse. Vous sera fait... là pour la kermesse de l'Agora.
Vous avez prévu de filmer ou de diffuser sur les réseaux sociaux en même temps?
Alors, on est très mauvais en communication. Très, très mauvais. Donc, oui, on filme. Mais après, c'est vrai qu'on ne met pas forcément dans les réseaux. Et on en discute.
Parce qu'alors, on serait débordé. Ouais. Voilà. Parce que vraiment, Alafou ramène beaucoup de monde.
On essaye de pas trop communiquer sur Alafou Live, c'est vrai, c'est beaucoup de bouche à oreille parce que sinon on va être
débordé.
On va refuser des gens et c'est frustrant pour nous et pour eux.
Les jeunes le font de mettre sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Ils se font filmer.
Non, je disais que les jeunes même, ils mettent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans leur famille ou leur copain qui filment, ils envoient derrière c'est pour ça. Que ce soit... Voilà. Pas forcément en parlant de l'événement à la Full Live, mais en tous les cas, de montrer ce qu'ils ont fait.
Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait des photos et qui allait prendre des photos ce soir. Je ne sais pas si cette personne est autorisée ou pas.
C'est toi, je crois, Lily.
Je ne suis pas sûre. Bon. Nos artistes n'étant toujours pas arrivés, on ne va pas leur jeter la pierre, on va continuer et peut-être parler justement des activités que vous allez mettre en place dans le cadre des Olympiades et puis passer sur la partie communiquée avec la dernière journée choc entre guillemets ou phare pour les 50 ans de l'Agora. Donc, je vous écoute, mesdemoiselles.
Alors, dans le cadre des Olympiades, donc sur le dispositif quartier d'été, nous allons mettre en place des ateliers de danse tous les mercredis en fin de journée. Donc ça se passera au local de Alafou. Et aux abords du local, il y aura des animations de proximité animées par l'Agora et ses partenaires, et ce qui permettra aux jeunes de pouvoir bénéficier de ces ateliers-là. Voilà, donc tous les mercredis à l'AFO.
D'accord, pas besoin d'inscription préalable?
Non, parce que le concept, c'est de justement repérer des jeunes qui aiment faire ça et qui ne soient pas forcément inscrits. Après, le but, c'est de constituer un groupe, justement, avec des tout-venants.
D'accord, c'est un petit peu comme... je ne vais pas citer la marque qui fait ça, mais venez comme vous êtes. Le message est passé.
Tout à fait.
Et pour ma part, du 11 au 29 juillet, il y aura des cours de hip-hop,
oui.
De 10h à midi et de 14h à 16h.
Au centre de l'espace culturel.
À l'espace culturel Busserine, oui. Pendant 3 semaines.
Pas d'inscription non plus?
Voilà. Venez comme vous êtes.
Exactement.
Voilà. Et aussi, il y aura une soirée Olympiade, un spectacle équestre, le 3 septembre. Alors, ça devait se passer au parc du Grand Séminaire, mais ça a été modifié. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore
le lieu,
mais voilà, ça se passera le 3 septembre et c'est un spectacle équestre. Alors, c'est plein les yeux.
Donc, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Quand nous aurons l'information, nous vous la communiquerons, soit par la radio, soit sur le site du Vivre Ensemble, ou près de nos partenaires aussi.
Je suppose que je suis le seul à ne pas savoir ce que c'est les Olympiades.
Alors, les Olympiades, c'est un projet qui a eu vu le jour l'an passé, qui s'est déroulé majoritairement sur le 14e arrondissement. Il y avait des cars qui étaient affrétés pour la base nautique de Corbières, où il y avait des activités nautiques, du kayak, du paddle, de l'initiation à la natation pour ceux qui ne savaient pas nager. Pas de l'apprentissage, il me semble pas. Peut-être que je me trompe, attendez. Hein. Il y avait également beaucoup d'activités qui étaient mises en place sur les différents territoires. À la fois, on avait déjà mis en place de la danse avec la PECB.
Et on a mis aussi en place des animations musique, nous, chant, musique.
Voilà,
l'initiation des instruments aussi.
Voilà, du chant, de la musique. Il y a eu du handball avec Marseille Nord Handball. Il y a eu du football, il y a eu de la boxe. Il y a eu du vélo, il y a eu de l'athlétisme aussi. Donc, il y a eu pas mal d'animations sportives. Et ça a été un franc succès. Donc, il y a une nouvelle édition qui débutera cette année le 6 juillet. Enfin, un lancement le 6 juillet, une présentation de toutes les activités. Cette présentation débutera à 14h au stade de la cité SNCF, qui s'appelle le stade Philibert, il me semble. Rue Marcel Soula, tu vois. Et là, ça sera l'occasion pour les parents et les enfants de voir qu'est-ce qui sera présenté et d'inscrire leurs enfants auprès des structures qui mènent des ateliers. Voilà. Il y a également, il me semble, cette année, la possibilité d'aller sur le parc Foresta pour faire de l'équitation ou du poney, peut-être des balades à cheval, on va dire ça comme ça. Il me semble que les Olympiades nautiques ont déjà débuté aussi, mais il n'y a pas de visibilité sur le nombre de places restantes. Donc ça, il faudra se rapprocher peut-être des intervenants samedi pour voir s'il y a de la place et comment ça s'organise. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Du coup, je passe la parole à Anne-Marie. pour nous faire un petit peu de communication sur la journée du 2 juillet.
Alors la journée du 2 juillet, on a et la dernière, le dernier événement qui marque l'anniversaire dit de l'ASCQB à l'Agora, 50 ans d'engagement et d'histoire, qui a été ponctué par une série d'événements sur lesquels je ne reviens pas, mais en tous les cas, l'événement final, c'est une journée familiale festive, que l'on souhaite la plus festive possible, ouverte à tous et qui aura lieu donc samedi sur la journée, avec un premier temps qui va être des animations enfants, avec beaucoup d'eau, si j'ai bien compris.
Parce que j'ai chaud.
Des animations enfants. Et dans le. Alors, Rania doit me. Parce qu'elle a plutôt les dernières infos. En tous les cas, il y a différents temps dans la journée qui permettent aussi d'être sur un aspect intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un moment qui est aussi. Pas un ballet, mais un peu un temps d'accueil des personnes âgées, puis des mamans aussi, pour se poser un peu, avoir une musique d'ambiance. Et ensuite, une soirée-concert avec des temps, autant du repas de midi que du soir, qui vont être aussi animés par des buvettes et des moments de restauration. Voilà, donc on espère que ce soit le plus grand possible. Ça va se passer dans l'enceinte, par facilité aussi, dans l'enceinte de la cour de l'Agora.
D'accord.
Voilà. Ouais. Par contre, tu peux apporter, Rania, des précisions.
Donc, la journée, elle débutera à 10h. Donc, à partir de 10h, on pourra recevoir du public autour des animations, châteaux gonflables, jeux d'eau, lancers francs, plein de petites activités pour les enfants. On va aménager un espace pour recevoir les familles et aussi donc, un point buvette. Ensuite, on a décidé de faire une petite coupure pour obliger les enfants à aller manger, à aller se restaurer. Et pour, vu que la journée va être longue, de 10h à minuit, pour qu'aussi l'équipe elle ait un petit peu...
Que
toutes les personnes investies ce jour-là puissent avoir un petit temps de pause. Et ensuite, on reprend. La petite coupure sera de 13h à 14h, elle ne sera qu'une heure. Et puis, on reprend à partir de 14h jusqu'au bout de la nuit. Donc on arrêtera les animations aux abords de 17h pour préparer un thé dansant à partir de 18h, de 18h à 20h. Et ensuite à 20h, ben, il y aura une ambiance DJ, peut-être des petits groupes. Et hier, il y a beaucoup de mamans qui nous ont demandé un karaoké. Donc peut-être qu'on va improviser un karaoké, on ne sait pas. Pourquoi pas ? Je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, donc venez nombreux, venez à l'Agora et venez fêter avec, tout ça avec nous.
Donc j'ai bien entendu buvette, pas de restauration sur place.
Si, le soir, il y aura un barbecue, parce qu'une fête sans barbecue, ce n'est pas une fête.
Une guinguette sans barbecue n'est pas une guinguette, mais une tout fête sans barbecue, c'est tout à fait possible.
Juste dire que cet événement marque aussi un travail avec beaucoup de partenaires qui ont travaillé, et d'habitants, sans qu'ils soient pour autant dans des associations, qui ont participé à toute la préparation de la journée. Donc, voilà, il y a Marseille-Norandale, il y a la PECB, il y a les équipes de médiation, ADAP et Régie, il y a le comité Maméga, ils me viennent de nom, Rania...
Arc-en-ciel.
Sheba.
Sheba, oui, bien sûr.
Et puis, l'association de locataires, non, pas les associations de locataires, non.
Alors, il y a des habitants, en fait, qui sont dans les associations de locataires, mais elles... Elles ne sont pas positionnées en tant que telles, mais qui sont présentes dans l'organisation. Je pense que ça va être une belle journée.
C'est déjà
festive.
Ouais. Voilà. Ben merci. On va faire une nouvelle pause musicale avec un morceau de Brandy, bien qu'elle ne soit pas là. Brandy, morceau intitulé Tentation.
T'en reviens pas. C'est sur moi que tu jettes ton dévolu. T'as pas idée, tu attends quoi? Si c'est moi que tu veux, va falloir que tu rames. T'as pas idée et tu t'en remets pas. La soirée c'est fini, il sera trop tard.
Toute la noche, tes yeux sur moi sont figés. Dur de faire le premier pas. soir, je joue de mes charmes. Parle-moi maintenant ou c'est fini, fini. La tentation, ce que tu connais. Ton cœur bat plus fort, c'est la vérité. Lis dans tes pensées, oui, t'es bouche bée. Tu te sens en danger. Toute la note, j'ai tes yeux sur moi sont figés.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Mameka, toujours avec nos invités, Latifa, Rania et Anne-Marie, que je remercie pour leur présence, n'est-ce pas ? Bon, nous nous sommes quittés sur les communiqués de presse, les informations sur à la Fou Live, sur l'Agora et la clôture des 50 ans, sur la guinguette. Mais l'été, il est marqué par autre chose aussi sur le territoire, ce sont les animations de proximité. Donc Rania, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les animations de proximité, les lieux où vous êtes, les jours, et peut-être pas le programme détaillé, mais voilà.
Alors, en ce qui concerne les animations de proximité, elles auront lieu du 11 juillet au 19 août, donc trois fois par semaine. Tous les mardis, ça sera à Picon, tous les mercredis à la Busserine et tous les jeudis au Maï. Et donc, lors de ces animations-là, ben, il y aura de la boxe avec BCR 13, il y aura du handball avec Marseille Nord Handball, il y aura aussi d'autres partenaires. On va essayer d'avoir du roller, etc., pour que tous les enfants puissent bénéficier de ces temps-là.
Et cette année, il me semble que ça a été prolongé jusqu'à mi-août.
Jusqu'au 19 août.
Donc 19 août, voilà. C'est pas mal.
Et tous les vendredis soirs, il y aura une soirée à l'Agora.
Oui.
Donc il y aura une soirée loto, une soirée défilée avec les jeunes du centre aéré et d'autres surprises. Donc je vous invite à vous rapprocher du programme.
Que nous allons éditer. Je dis nous, je ne sais pas qui est nous, mais nous allons le faire. Babi vient d'arriver avec nous, donc bienvenue Babi. Je t'invite à nous rejoindre autour de la table. Donc Babi est un jeune artiste du territoire et qui va notamment participer à la guinguette. Donc je te laisse te présenter rapidement. No stress. Il n'y a pas plus stressé que moi, il regarde comme je suis détendu.
Bonjour à tous, moi c'est Babi KGB, je suis un rappeur originaire de ce quartier. Et voilà.
Alors depuis combien de temps est-ce que tu es dans la musique ? Quelle est ta trajectoire un petit peu ?
Ça fait déjà quelques années, ça doit faire 4-5 ans. Je me suis toujours intéressé à la musique, mais pas plus que ça. Et il y a quelques années, je me suis dit, je vais me lancer en forme, on va essayer de faire quelque chose.
Alors, tu t'es lancé seul ou est-ce que tu as été un petit peu chapeauté par des...
Non, seul.
Seul.
Ouais, seul.
Ta musique, tu l'écris seul, tes sons tout seul.
Tout seul.
C'est beau. Ouais, c'est un solitaire. Et du coup, tes sons, tu les enregistres comment et où plutôt ?
Dans différents studios à Marseille. À Saint-Just, à Consola, ça dépend.
D'accord. J'avais plein de questions à poser, mais je suis un petit peu décontenancée, je dois l'avouer. Parce que, comme je disais, je suis stressée et ma programmation, elle est un peu chamboulée, comme mes idées, en fait.
Désolé.
Non, c'est pas... T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est moi qui dois apprendre à m'adapter, c'est pas ça. Donc oui, donc on est là pour la guinguette. La guinguette, comme on le disait, souvent, ce sont les premières scènes des artistes. Est-ce que pour toi, c'est l'une de tes premières scènes ?
Non.
Tu as eu l'occasion de participer à d'autres festivals ?
Ouais.
Lesquels ?
À la Belle de Mai, à Félix Piat. Ouais, à la Belle de Mai, Félix Piat, que je me souvienne.
Ouais.
Et la Bucherine.
Ouais, c'est ça, il me semble que l'année dernière, tu étais sur la guinguette.
À la Bucherine,
ouais. Déjà. Donc, la guinguette, parce que pour nous, c'est un symbole, mais pour toi, qu'est-ce que ça symbolise, la guinguette ?
Ben, c'est bien, ça réunit le quartier déjà, ça ramène une ambiance. Tout le monde dit les joyeux quand il y a de la musique, plus ou moins. C'est tellement rare dans notre quartier que ça fait tarpin plaisir, je suis super content.
Oh. Je voulais juste dire que ça a ramené l'année dernière 1000 personnes, on a eu. Avec 2 ans de Covid. On a eu 1000 personnes et on n'a eu aucun incident.
Oui, parce que ça traduit le besoin des gens que les gens ont de se retrouver après cette période noire, entre guillemets, de Covid. Donc j'espère que cette année, il y aura au moins encore 1000 personnes et que ça se déroulera aussi bien que l'an passé et que les financeurs nous accorderont un petit peu de rab pour pouvoir faire une deuxième guinguette sur le territoire. Bon, il y en a 2 sur le territoire, mais une troisième, puisqu'il y a les Flamands aussi. Donc, Babi, en fait, une question de Saïd.
Bah, encore une fois, j'ai l'avantage d'être ignorant, donc tu chantes quoi ?
On ne peut pas dire que c'est du rap, parce que ce n'est pas du rap, vraiment. Je chante ce que je vis, j'essaie de raconter ma vie sans m'en inventer une. Et alors là, ça reparle de tout, hein, mais de la rue, de la drogue, forcément, et de mes histoires d'amour aussi. Et je raconte ma vie comme je vous ai dit, donc on peut dire que c'est de la pop urbaine.
Pop urbaine,
ouais.
Ben justement, Babi, tu nous as envoyé un son, ouais. Et on va te laisser l'interpréter. Donc, Sidi, est-ce que tu peux nous passer le morceau de Babi KGB qui s'appelle Ténèbres, s'il te plaît ?
Paul était levé depuis environ 2 heures. Il était assis sur son lit, en train de réfléchir. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait agir et vite. Il se leva. Il prit l'objet qui lui paraissait le plus contendant dans sa chambre. Il ouvrit la porte de sa chambre. Les ténèbres régnaient dans sa maison. Il n'y avait pas de bruit. Il avançait dans le couloir tout en restant sur ses gardes. Soudain, se retourna. Il semblait avoir entendu un rire. Il continua d'avancer vers le fond du couloir. Pendant un long moment, il avançait. Long comme une demi-heure. Là, 30 secondes suffisaient d'habitude. Enfin, il arriva au bout. Il y avait un escalier qui descendait. Paul n'osait pas descendre. Il avait déjà eu énormément de problèmes avec les escaliers. Il s'engagea dans la première marche. Doucement, puis sur la deuxième. Doucement, mais sûrement. Il prenait son rythme. Au bout d'un moment, il s'arrêta et souffla. Il n'était pas très sportif. Il s'assit 5 minutes sur une marche et il réfléchit. Il se demandait où il était. Pourquoi ça lui arrivait à lui et pas à quelqu'un qui le méritait. À moins qu'il le méritât d'une manière ou d'une autre. Il regarda autour de lui. Il n'y avait pas de lumière. Mais on voyait les marches d'escalier malgré les ténèbres. Paul se releva et continua sa route. Au bout d'un moment, il finit par arriver au bout de l'escalier. C'était un mur. Un simple mur avec un texte écrit dessus. Ne t'inquiète pas. Bouge donc de la lumière vers les ténèbres. Pas la peine de t'inquiéter. Paul trouva de suite le message caché. Il aimait bien ce genre de truc. Il restera droit comme un piqué pendant longtemps. Encore. Et soudain, tout disparut. Il ne restait que lui. Il ne savait pas sur quoi il était, mais c'était désagréable. Il se risqua un petit pas devant lui. Rien ne se passait. Il continuait d'avancer tout droit dans cette ténèbre. Il avait chaud, très chaud. Il s'arrêta. Devant lui, une personne qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Comme un miroir. Il leva la main droite. Le reflet leva la main droite. Soudain, Paul retourna sur ses pas et comment son reflet, alors qu'il avait la main droite, ne levait pas la main gauche, comme tout bon miroir qui se respecte. Il trébucha et tomba. Il ne tomba pas sur le sol, non. Mais il tomba comme si on tombait d'un immeuble dans le vide. Finalement, il atterrit dans sa chambre. Le soleil venait de se lever. Il avait dans ses mains poisseuses son carnet et son stylo. Il les reposait sur son lit. Il ouvrit la porte pour aller dans la salle de bain se doucher. Une bonne douche chaude. Il resta sous la douche un bon moment. Quand l'eau prit une couleur bizarre, elle virait au rouge. Comme le rideau, une créature lui ressemble comme deux gouttes d'eau avaient transpercé le rideau de douche avec ses griffes. Il montra son hideux visage à Paul. Bien qu'ils furent quasiment les mêmes, il avait des cornes et une peau plus sombre, ainsi que deux yeux totalement noirs. Noirs comme les ténèbres les plus sombres.
Donc c'est un morceau qui s'intitule Ténèbres, mais ce n'est pas le tien, Baby. C'était gentil de dire que ça se ressemble. Donc on va écouter le vrai morceau de Bébé KGB, Ténèbres. Voilà.
Je rallume un pilon, j'ai repris le guidon. Je trace dans la fumée, mon regard en dilant. Je rallume un pilon, pour y voir plus clair. Ça me donne des ailes, donc ça fait deux heures. Mon regard en dilant,
le même que Ziadé Bouna. Le même regard qu'Adama. Être un hessé, avoir une longue vie. Moi je préfère mourir en lamba. C'est vrai que j'ai pas toujours les mots. Que j'ai pas toujours fait ce qu'il faut. Dis-leur qu'il faudra s'y faire. Je change des choses comme des flots. Que j'ai pas fait toujours ce qu'il faut. C'est vrai que j'ai pas toujours les mots. Chez nous c'est les ténèbres. On meurt jeune ou riche, mais on meurt pas célèbre. La go veut refaire son cul, c'est sans ses lèvres. Comme se dit Brahim Ali, ici on tue tes rêves.
On tue tes rêves.
À l'œil nu, moi leur vie je le vois. Tu me dis que tu m'aimes quand tu bois. C'est réel, j'ai la haine, tu le ressens dans ma voix. J'ai mes potos au ciel, bat les couilles que tu me crois. Tous les jours je fume la zone. Tous les jours je suis dans la zone. Ils ont tué Béné dans la cité de Dieu. Le meilleur des meilleurs, je l'ai vu de mes yeux. Les gens parlent d'amour toute l'année. Moi je parle de ce que je connais. Je suis en bas de la tour. Moi je parle de ce que je commets. Dis-moi comment tu dis qu'on se détente.
Y'a des CZ,
des guitares à vendre.
Y'a des terrains à prendre.
Y'a des bougas éteindre et justice à rendre.
Que j'ai pas fait toujours ce qu'il faut. C'est vrai que j'ai pas toujours les mots.
Chez nous c'est les ténèbres. On meurt jeune ou riche, mais on meurt pas célèbre. La go veut refaire son cul, c'est sans ses lèvres. Comme se dit Brahim Ali, ici on tue tes rêves.
On tue tes rêves.
Chez nous c'est les ténèbres. On meurt jeune ou riche, mais on meurt pas célèbre. La go veut refaire son cul, c'est sans ses lèvres. Comme se dit Brahim Ali, ici on tue tes rêves. On tue tes rêves.
C'est les ténèbres.
C'est les ténèbres, c'est Bobby KGB. Merci.
Bien. Merci à toi, Bobby KGB.
Merci à vous.
Merci. On avait un plateau quasiment féminin jusqu'à la fin. Oui, Brandy est arrivé malheureusement avec... Malheureusement parce qu'on n'a plus de temps d'antenne, voilà. Mais nous avons quand même passé son morceau à 14h45. L'émission est disponible sur le site de Radio Galère, donc on pourra réécouter, vous pourrez réécouter quand vous le voudrez. Ça sera disponible un petit peu plus tard sur le site du Vivre Ensemble. En attendant, je remercie une nouvelle fois nos invités pour le temps qu'ils nous ont accordé. L'émission touche à sa fin. Et nous remercions nos financeurs, l'ANCT, le Conseil départemental 13, la Métropole pour leur soutien. Et merci à Sidi Diallo pour la technique. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.
Merci à tous.